Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, ce sera un cap-cap avec Monique Drieux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une scientifique qui travaille en étudiant le passé, en restaurant, entre guillemets, des morceaux. Et bien, elle va nous expliquer tout ça et en assurant sa conservation. Autrement dit, elle se penche sur nos racines et elle œuvre à en protéger les vestiges. Bonjour Monique Drieux.
Bonjour Jacques Lavergne.
Alors comment ça vous est venu cette idée de travailler dans le domaine de l'art? Vous avez fait un bac littéraire, puis après vous êtes allé à la Sorbonne pour étudier l'archéologie, l'histoire de l'art. C'était un choix, c'était un choix par défaut, c'était un choix voulu, c'était un choix contraint?
C'est une vocation.
Ah!
C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 14 ans, je dessinais beaucoup, je m'intéressais à l'art en général, à l'histoire de l'art, et j'ai découvert, grâce à ma mère d'ailleurs, la profession de restauration des œuvres d'art. Ma mère avait trouvé un article sur une dame qui était célèbre à l'époque, Madeleine Ours, qui dirigeait le laboratoire de recherche et de restauration du Louvre.
Et il y avait ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien, et qui avait notamment sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale pas mal d'œuvres du Louvre, en les cachant et aussi en les protégeant. Et cet article me paraissait conjuguer absolument tout ce que j'aimais. C'est-à-dire par la restauration, bien sûr, des œuvres, le soin que l'on apporte aux œuvres, comment leur permettre d'être exposées, présentées au public, mais aussi de traverser les âges à venir. Et puis aussi par cet aspect scientifique. Notamment, à l'époque, c'était la radiographie des tableaux qui prenait de plus en plus de place. Et Madeleine Ours a monté, d'ailleurs, ce laboratoire de radiographie. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça allie à la fois les sciences, à la fois le mystère du passé, et puis ce besoin de soigner, d'apporter quelque chose, une espèce d'empathie pour les œuvres d'art, les animaux que j'avais déjà à l'époque. Voilà comment m'est venu en fait ce...
Alors quand on dit je suis archéologue, vous êtes archéologue, on voit plutôt quelqu'un en train, à quatre pattes, en train de gratter avec une petite truelle sur le terrain. Vous, ce n'est pas votre métier véritablement.
Alors ça l'a été et ça continue à l'être si par exemple des archéologues découvrent des pièces exceptionnelles, ce qui a été le cas en 2004 dans le Limousin, où ils ont découvert un ensemble de casques fabuleux, d'outils, d'armes celtes. Qui était en très très mauvais état de conservation et il fallait que les restaurateurs, les restauratrices de notre équipe dont j'étais, puissent intervenir au plus près des objets. Et à ce moment-là, effectivement, on prend alors non pas les grosses truelles, on va prendre des petits outils de dentiste pour aller au plus près de la matière sans détériorer bien sûr celle-ci. Mais j'ai participé, oui, à des fouilles en Égypte avec l'Institut français du Caire ou aux Émirats arabes unis avec une équipe du CNRS de Lyon. Voilà, oui, j'ai aussi... Mais c'est vrai que pendant longtemps, lorsque j'expliquais que j'étais archéologue, on me regardait avec un peu de compassion, je dirais.
Hein, pourquoi de compassion?
Parce que...
C'est un métier qui fait rêver, comme enfin,
oui,
peut-être pas tout le monde, d'ailleurs.
Certaines personnes pensaient que je faisais ça un petit peu par défaut, parce que je n'avais pas eu les capacités de faire autre chose, alors que c'était réellement une vocation. Maintenant, mes enfants qui sont à l'université ou au lycée ont compris quand même l'importance de l'archéologie pour la connaissance de l'histoire, de notre passé, de nos racines, comme vous disiez très justement. Donc, ils n'ont plus honte de dire que leur mère est archéologue.
Je pense que c'est plutôt prestigieux que honteux quand même. Alors vous avez fait des maîtrises de sciences et techniques en conservation, restauration des biens, toujours à la Sorbonne. La conservation, la Master 2 de conservation préventive des biens culturels. Donc vous avez une formation théorique costaud. Après, vous êtes parti en Angleterre.
Oui.
Hein, je vois York, Manchester.
Parce qu'en Angleterre, la conservation préventive, c'est-à-dire le soin que l'on doit prendre des œuvres et des matériaux, surtout, au moment de leur découverte, reste quelque chose de primordial. Et à l'époque, ils étaient vraiment à la pointe dans ce domaine. Pourquoi est-ce primordial ? Parce que si on entreprend trop vite de dégager les objets avec les connaissances que l'on possède, on s'empêche, on entrave toutes les recherches possibles futures et on s'empêche de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Par exemple, sur des monnaies, si on s'empresse de vouloir les restaurer, les gratter, est-ce qu'on ne va pas abîmer quelques détails que, à la simple observation à l'œil nu, on n'est pas capable de voir ? Donc les Anglais étaient très très forts en ce domaine et surtout, à l'époque, ils avaient découvert à York une installation viking, donc 8e siècle à peu près. Mmh. Et en plein cœur, lors de la construction d'un bâtiment pour des assurances, ce site de l'installation viking de York avait été mis au jour par les archéologues, qui à l'époque avaient du coup été sollicités, bien sûr, les assurances pour payer les fouilles, mais aussi pour retarder, bien sûr, l'installation et la construction de leur bâtiment. Et ils ont été très forts. Ils ont construit par la suite un musée grâce aux fonds. Ce musée a été rentabilisé en un temps record, tellement le nombre de visiteurs depuis les années 88, je crois, est impressionnant. Et surtout, c'était un musée exemplaire. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les vestiges des fouilles dans le musée. Et quand vous traversez ce musée, vous le traversez assis sur une demi-barrique de whisky qui est montée sur des rails. Et vous traversez le village viking qui a été reconstitué avec les odeurs de la poissonnerie, etc., que le laboratoire de restauration, d'ailleurs, devait mettre en œuvre. Et puis ensuite, vous descendez de la petite barrique, vous traversez le chantier qui a été maintenu en l'état. Vous arrivez, vous traversez le laboratoire de restauration, enfin, une reconstitution, bien sûr. Et ensuite, vous arrivez dans le musée, et puis alors après, à la boutique du musée. Donc là, évidemment, c'est une rentabilité très impressionnante. Mais c'est un très, très beau musée, oui, qui malheureusement a été inondé il y a quelques années. Mais
c'est possible de reconstituer des odeurs ? Parce que là, c'est quand même un peu plus compliqué de savoir à l'époque ce que l'on sentait. Je sais que M. Mélenchon... produit des odeurs dans ses réunions, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, ça fait penser à ce film Harold et Maude.
Oui, tout à fait.
Que vous connaissez certainement. C'est un rêve, ça, de pouvoir reconstituer les odeurs. Non, simplement, dans le musée, à un moment, les visiteurs traversent la partie commerçante du village viking avec la poissonnerie. Donc, on allait mettre...
Oui, les poissons sont tous... Après, toujours la même odeur.
Voilà. Donc, il y avait tout un système dans le musée où on pouvait remplir certains réservoirs à certains passages. Donc, notamment de l'ammoniac pour la poissonnerie, et puis une odeur un peu plus fleurie quand on arrivait sur l'échoppe du Tisserand, par exemple.
Après, vous avez travaillé sur les objets du Titanic.
Ah oui.
Les objets du Titanic, ça ne fait pas tellement rêver, parce que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement ancien, ni peut-être d'extrêmement prestigieux. Qu'est-ce que ça nous apprend, les objets du Titanic ?
Alors, les objets du Titanic, c'était quand même... un épisode de notre histoire en 1912 qui a été tragique. C'est aussi un épisode pour moi sur un échec d'une technologie qui à l'époque, c'était la technologie de construction navale. On avait fabriqué un bateau, un navire qui était normalement insubmersible.
Oui, enfin, on sait ce qu'il en est dans les... Je crois qu'il y avait quelques bulles dans l'acier, non ? C'est ça ?
Il y avait des bulles dans l'acier, surtout d'après les recherches de l'EDF, des défauts effectivement dans les rivets. Une économie de moyens, pourrait-on penser, de l'industrie qui a fabriqué ces rivets et qui malheureusement étaient quand même des éléments tout à fait importants dans la construction. Alors après, pour moi, ça a été une expérience fabuleuse parce que je démarrais les études de restauration et un collègue m'a proposé de travailler au laboratoire Valectra d'EDF. Et là, j'ai rencontré... deux passionnés qui dirigeaient ce laboratoire, qui étaient tous les deux employés par l'EDF et qui avaient monté ce laboratoire pour le traitement par électrolyse, en fait, par électrochimie, des objets du patrimoine.
Et qu'est-ce que l'EDF vient faire dans le patrimoine ? Enfin, on est heureux qu'elle y soit, bien évidemment. Mais
C'est du mécénat. Ils avaient commencé... Bon, c'est vrai que c'est deux hommes que je remercie et que je remercierai toujours.
On peut citer leurs noms, si vous
voulez. Oui, bien sûr, Jacques Montluçon et Noël Lacoudre. Qui sont certainement à la retraite, mais à l'époque, ils avaient vraiment décidé de monter ce mécénat pour traiter les canons d'Alexandrie, hein, de la campagne napoléonienne, et puis ensuite toutes sortes de patrimoine au Moyen-Orient. Et quand l'Ifremer a contacté l'EDF en expliquant que l'Ifremer avait été sollicité pour faire la campagne de recherche du Titanic et de collecte en fait, de ces objets. Noël Lacoudre et Jacques Montluçon, évidemment, ont sauté sur cette opportunité et tous les premiers objets de la première campagne ont été ramenés à l'EDF. Et là, ils ont constitué une équipe avec notamment des étudiants en restauration, et c'est là où c'était fabuleux pour nous. On découvrait déjà un laboratoire de techniques très spécifiques, scientifiques. Ils mettaient à notre disposition tout leur savoir sur les traitements électrolytiques que l'on peut appliquer à toutes sortes de patrimoines, et pas à d'autres. Et on était dans une émulation incroyable avec la valorisation derrière de tout ce patrimoine. Après, techniquement, c'était vraiment très important, oui, très intéressant pour moi.
Donc il faut quand même de gros moyens que peut-être la puissance publique n'a pas.
Oui.
Mais on y reviendra tout à l'heure parce que je voudrais vous interroger là-dessus et notamment sur le laboratoire que vous dirigez. Donc vous avez travaillé aussi, j'ai vu ça en préparant l'émission, à l'Institut français archéologique oriental du Caire. Oui. Vous n'avez pas rencontré Hercule Poirot, non, là-bas?
Non, je n'ai pas rencontré Hercule Poirot. Mais alors,
peut-être Nicolas Grimal, vous avez rencontré.
Oui, bien sûr. Oui, 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 c'est lui qui m'a, entre guillemets, embauché. En fait, en 90, il y a eu la déclaration de guerre Irak-Koweït. Or, je devais partir à la demande de l'université de la Sorbonne pour 2 ans en Irak, à Bagdad, pour faire le traitement des objets découverts par les fouilles françaises. C'était le centenaire, en fait. Puis évidemment, la déclaration de guerre m'a complètement empêchée de partir à Bagdad, c'est évident. Et Jacques Montluçon, de l'EDF, voyant mon désarroi le plus profond, parce que je voulais vraiment partir travailler en Orient, m'a proposé, par défaut, entre guillemets, de contacter Nicolas Grimal, qu'il connaissait bien, et de me permettre de partir en Égypte. Et évidemment, quand j'ai découvert l'Égypte, les sites en Égypte ont travaillé dans le sud-ouest, dans le désert occidental, près du Soudan, donc c'est juste fabuleux. C'est une autre dimension. Ce sont des installations, en gros, de l'ancien empire, fin du 3e millénaire, avec des gouvernorats, le gouvernorat d'Oséosis. Donc vous aviez une ville qui était fouillée, le palais du gouverneur, les tombes qui étaient absolument gigantesques. Et je travaillais avec un collègue de l'IFAO qui lui était électrochimiste, justement, qui avait aussi travaillé à l'EDF auparavant. Et je travaillais avec lui pour former une dizaine de collègues égyptiens, des jeunes restaurateurs. Et puis pour travailler, on travaille non-stop, c'est-à-dire on se lève à 5-6 heures du matin et on arrête à peu près le soir vers 10-11 heures. Mais alors quelle émulation de travailler en équipe avec au jour le jour les découvertes, les regards croisés. C'est ça qui est intéressant dans ma discipline. Moi je ne suis pas spécialiste en quelconque période, par contre je suis spécialiste sur les matériaux. Donc j'aide les chercheurs en fait à découvrir, ça c'est passionnant.
Quelle relation on a avec les locaux en Égypte, parce qu'on arrive finalement, on s'impose un peu, on gratte leur sol, on réveille leurs morts, comment ils le vivent ça?
Alors assez bien, parce qu'en fait il y a une grande tradition des fouilles françaises en Égypte, oui. Bien sûr qui remonte en 19e avec la construction du premier musée du Caire par Mariette entre autres, et l'Institut français aussi d'archéologie orientale, était jusqu'à une période assez récente très très bien implanté en Égypte, comme l'Institut allemand ou même les Canadiens d'ailleurs d'Ottawa et de Toronto. Donc c'est non, on est bien reçu parce que aussi l'Institut français embauche quand même beaucoup de gens, des locaux pour travailler.
Et forme, j'imagine.
Voilà, ça
de
c'était
chercheurs.
Effectivement.
Depuis qu'on en forme, je crois qu'ils doivent être un peu autonomes aujourd'hui, non?
Ils sont totalement autonomes et ça, je dois dire que je suis assez fière d'eux et fière d'avoir pu leur apporter tout ce que j'ai pu leur apporter à l'époque. Effectivement, quand je suis arrivée là-bas, je ne parlais pas leur langue et la plupart des jeunes que je formais qui venaient de Louxor ne parlaient pas le français. Donc,
alors comment vous avez fait?
Heureusement, nous avons un métier manuel, donc ouais. Par les gestes. Et puis le soir, je leur ai demandé de m'apprendre l'égyptien. Donc, on passait une heure ensemble en faisant un peu la cuisine ou en se promenant et en apprenant le maximum. Et puis, j'avais juste appris quelques phrases qui me permettaient de pouvoir soit imposer mes directives, soit de pouvoir discuter avec eux simplement pour les guider. Mais ce n'était pas très facile, oui. C'était pas très facile. L'un d'eux est arrivé un peu plus tard. La première année, je crois que j'y suis restée 3 mois. Et quand il est arrivé, lui parlait français, il était enseignant. Donc là, ça m'a un peu soulagée, oui. Mais l'équipe était très soudée. C'est un peuple formidable qui a beaucoup d'humour malgré sa situation quand même catastrophique.
Oui, on peut l'aider. Oui, catastrophique, c'est le mot. Oui. Y a toujours beaucoup de chercheurs étrangers là-bas sur le sol égyptien.
Oui, oui, je me suis renseignée récemment. L'IFAO, justement, a développé avec mon collègue qui était électrochimiste, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement. Il avait développé un grand laboratoire de traitement des objets et un laboratoire de datation carbone 14. Donc, quand même, l'IFAO a développé, l'IFAO du Caire a développé effectivement grâce à Nicolas Grimal d'ailleurs, une très grande ouverture.
Le père
vers
était
les locaux.
Plus porté sur les Romains, le fils sur l'Égypte.
Oui, oui, oui. Mais Nicolas Grimal a vraiment donné, une très grande impulsion à l'IFAO et une très grande place justement aux techniques, entre guillemets. C'est-à-dire que par rapport aux épigraphistes, un archéologue ou une restauratrice, on est juste des techniciens au service d'eux, vous voyez. Et avec Nicolas Grimal, les choses ont changé. Il a réellement valorisé toutes les disciplines, la photographie, le dessin, la restauration, l'archéologue, qui tournent en fait pour découvrir et permettre aux chercheurs de travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans notre profession.
Oui, parce que c'est très pluridisciplinaire aujourd'hui. Oui. On ne travaille plus l'archéologue tout seul comme Carter qui va découvrir le tombeau de Toutankhamon, c'est terminé.
Oui, oui, c'est terminé.
Il y a des spécialités d'ailleurs assez surprenantes dans ces équipes-là.
C'est souvent ce que je dis aux jeunes stagiaires, aux collégiens que nous accueillons régulièrement ou aux étudiants en archéologie. Je leur dis, bon, vous pouvez trouver votre place parce que la recherche en archéologie ou en histoire, c'est une recherche vraiment pluridisciplinaire. Il faut aimer par contre le travail en équipe. Maintenant, on ne travaille plus seul, comme vous le dites très justement. C'est tout autre chose. Ça l'a été quand même, même par le passé. Je repense à Agatha Christie, qui travaillait avec son mari, notamment en Irak, qui s'était targuée, elle, de faire quelques photographies parce qu'elle découvrait la photo, elle aimait bien. Et elle a photographié les sites, les objets, comme on le fait aujourd'hui de façon très méthodique et scientifique. Et je crois que c'est le British Museum qui a découvert très récemment l'ensemble de ces photographies et qui a compris que c'était une véritable mine d'or parce que ça permet de comparer les objets au moment où ils sont sortis de fouilles à ce qu'ils sont aujourd'hui dans les réserves ou les étagères.
Ça veut dire qu'il y a eu une mutation de ces objets ? Ou une dégradation ?
Alors, une dégradation, peut-être pas, peut-être pour certains, qui se sont altérés tout simplement par l'effet de l'âge et du temps, mais certainement des transformations par des restaurations, par une compréhension de l'objet qui a pu en engendrer une modification de leur état. Ce que l'on a rencontré, par exemple, ici, en travaillant sur les collections grecques du musée Saint-Raymond, des céramiques grecques du musée Saint-Raymond, où on s'est rendu compte, en dérestaurant certaines restaurations par nécessité, que visiblement, les objets n'étaient pas ceux que l'on voyait. Et grâce à la radiographie, on a pu comprendre qu'il y avait eu des véritables montages au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, l'histoire du goût et de la restauration était très différente de notre jour.
Moins respectueuse ?
On cherchait l'illusionnisme. On cherchait à faire plaisir aux visiteurs et à reconstituer le plus possible. Donc s'il fallait rajouter une anse ou un bout de céramique, et puis repeindre dessus un décor, ce qui a été le cas pour...
Ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle, quand même.
Aujourd'hui, oui. Voilà, aujourd'hui, enfin maintenant, depuis les années 70-80, on arrête ce système-là, oui, tout à fait.
Je vous propose de faire une première pause musicale. Alors, je vous laisse la présenter, parce que c'est vous qui l'avez choisie.
Alors, c'est une interprétation effectuée par Jordi Savall, dans un disque où il a regroupé un ensemble de folia. Donc, ce sont des musiques à partir du XVe siècle qui étaient à la fois des musiques pour la danse et puis des compositions incroyables avec ces viols et ces instruments de musique qui ne sont pas très communs aujourd'hui.
Voilà, Jordi Savall, des sons qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, je vais dire malheureusement. Nous retrouvons Monique Drieux, qui, alors là, on avait des sons du passé, elle travaille aussi dans le passé, mais un passé peut-être encore plus lointain. Vous avez une époque de spécialité, de référence, où vous touchez à peu près à toutes les époques?
Alors, on touche à toutes les époques, mais on est spécialisé sur les matériaux. Ce qui importe, c'est... Moi, je suis spécialisée dans la restauration ou le traitement des métaux, des verres et des céramiques.
Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que vous auriez pu aller vers tout autre matériau.
Alors, le métal, c'est la technologie du métal. Juste quelque chose de passionnant, l'origine du métal et ce que l'on a pu en faire. Bien sûr, il y a l'armement, hein, mais aussi oui. En architecture. Et puis, évidemment, du point de vue artistique, c'est quelque chose qui est fabuleux. Hein, les carnix qui ont été découverts sur un site Tintignac dans le Limousin en 2004, ce sont des trompes de guerre gauloises. Donc, c'est l'époque celtique. Et ils reflètent une technologie qu'on ne connaît plus de nos jours. Hein.
Nous avons eu ici, dans cette stalle d'Occitanie qui nous abrite, nous avons eu un directeur qui s'est piqué d'en fabriquer un. Il a en joué à la tour, au-dessus de la tour capitulaire. Là,
j'ignorais.
Voilà, donc c'est pour ça que je connais un peu cet instrument. Je l'ai un peu fréquenté. Après, c'est vrai qu'il a une sonorité un peu particulière.
En fait, c'est plus une trompe de guerre qu'un instrument de musique.
Un instrument de musique. Oui, oui. Alors tout ça vous a mené, il y a quand même déjà pas mal de temps, à diriger un laboratoire qui est installé à Toulouse, on ne le connaît certainement pas assez, qui s'appelle Materia Viva. Alors qu'est-ce que c'est Materia Viva? Dites-nous un peu.
Et que vive la matière. Hein,
oui,
donc, voilà.
Certes, mais donc, encore.
Materia Viva, c'est un laboratoire. En fait, quand je suis arrivée à Toulouse en 1993, je venais directement des Émirats Arabes Unis où le climat ne me réussissait pas trop, malheureusement.
Il est un peu chaud.
C'est très chaud.
Vous n'étiez pas dans le pétrole, donc ça les
a... Très humide, oui. J'étais pas loin, mais ça ne réchauffait pas, en tout cas, ça n'élevait pas le degré d'humidité. Donc je suis arrivée à Toulouse parce qu'il y avait déjà un laboratoire existant, une collègue, Françoise Chavigné, qui travaillait beaucoup dans la restauration des objets préhistoriques, des objets d'art préhistorique notamment.
Quelle époque?
Jusqu'à 14, 15 000 à l'époque. Hein. Voilà, on n'avait pas encore découvert la grotte Chauvet, donc, qui remonte à 32 000 à peu près. Donc,
mais on avait celle de Pechmer, là, puisque je parlais de la famille Grimal qui est l'autoi et qui habite quasiment. Enfin, donc, les résidences sont au-dessus de Pechmer.
Oui,
là.
Oui. Ben, Pechmer, oui, qui est en pleine rénovation, hein, qui va ouvrir très prochainement. On vient de faire quelques traitements pour eux. Voilà, donc je me suis installée en 93 ici pour me refaire une santé. Je ne connaissais pas du tout la région et j'avais vraiment envie de découvrir Toulouse et la région. Voilà. Et un
avec
an après,
un œil de touriste ou d'archéologue?
Les deux. Vous êtes, les deux, parce qu'on a un patrimoine ici qui est juste fabuleux, justement, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est extraordinaire, c'est d'une très très grande richesse et très varié. Et ma collègue m'a annoncé un an après qu'en fait, son mari étant muté, elle partait et m'a proposé de reprendre le laboratoire. Bon, je lui ai dit pendant 6 mois, voilà, juste le temps qu'elle revienne avec son mari, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis après je repartirai. Et en fait, voilà, depuis 1993, je me suis installée ici, je suis restée. Donc après, on a développé, grâce à la région et à la direction des affaires.
Alors c'est un laboratoire, pardon, je vous coupe, mais Monique Drieux, mais c'est un laboratoire qui est privé ou c'est un laboratoire public?
Alors, c'est un laboratoire, comme beaucoup de laboratoires en France, qui est sous forme associative. Parce que, justement, les pouvoirs publics, on peut monter de laboratoires, notamment reliés à des musées. Le laboratoire de la ville de Toulouse, de restauration de la ville de Toulouse, qui avait été monté par Jean-Louis Lafont, et qui existe toujours d'ailleurs, était un des rares laboratoires municipaux en France dans les années 80. Ils étaient 3, je crois, il y en avait un à Bordeaux, un à Vienne près de Lyon, et puis un autre ici à Toulouse. Mais ce laboratoire ne traitait pas tous les matériaux. Jean-Louis Lafont était issu des Beaux-Arts, il traitait surtout les sculptures, notamment pour le musée Saint-Raymond, les mosaïques pour toute la région. Et moi, j'avais des spécialités plutôt sur le petit mobilier, comme on appelle, hein, à nouveau les métaux, etc. Donc en fait, les seules solutions qu'avaient les laboratoires, les restaurateurs pour pouvoir exercer en France, c'était de monter des laboratoires sous forme associative qui étaient quand même contrôlés par le service archéologique, la direction des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture, et puis qui étaient aidés par la région. Moi, j'ai toujours été aidée par la région Midi-Pyrénées puis Occitanie. Voilà, soutenue financièrement, bon, avec les moyens que pouvait nous octroyer la région, mais c'était déjà très bien. c'était de nous permettre par des subventions d'avoir un équipement de pointe, parce que malheureusement on a besoin de loupes binoculaires ou d'équipement de prothésie dentaire, mais nous n'avons pas ni les salaires ni les budgets de certaines professions médicales. Donc voilà. Donc ces subventions se sont révélées être vitales.
Ouais. Donc vous dépendez quand même un peu de la manne publique.
On dépend quand même de la manne publique. On est installé dans le dépôt régional de l'archéologie. Donc on a déjà une subvention indirecte,
oui,
je dirais.
Tout à fait.
C'est très important, avec un espace de 300 mètres carrés pour exercer. Et après, sur le fonctionnement, par contre, on est autonome, on fait des devis, des factures, etc. Et bien sûr, on a beaucoup d'actions à titre gracieuse, je dirais. Bon, l'accueil des étudiants, bien sûr, la participation à aux journées archéologiques, notamment depuis quelques années au mois de juin, j'en profite, les 18 et 19 juin, journée nationale de l'archéologie. Ensuite, les journées du patrimoine vers mi-septembre. Et puis, la nuit des musées, la fête de la science, etc. Donc là, on est toujours présent aux côtés des conservateurs de musées ou des archéologues.
Et vous travaillez à leur demande pour eux, vous répondez un peu dans toute la région, parce que j'ai vu que vous travaillez en Occitanie et aussi en Aquitaine.
Voilà,
donc c'est tout le Grand Sud de la France.
C'est tout le Grand Sud jusqu'à Limoges, en fait. Hein. C'est vraiment une
Limoges,
petite...
Limoges, c'est le Nord pour
un
nous,
petit toit,
ici, à Toulouse.
C'est,
hein.
Oui, je vois, mais enfin, bon, c'est... voilà, on va de Perpignan à Bayonne, à peu près. On remonte jusque sur Poitiers, Limoges, et on redescend sur Montpellier.
Ça fait un espace énorme. Vous
oui.
avez des équipes suffisantes pour travailler
Alors,
sur...
Nous sommes quatre permanentes et puis ensuite, en fonction des volumes de travail ou des spécialités requises, on va intégrer des collègues spécialistes. Oui,
oui, donc il y a des gens qui viennent en freelance, comme on dirait maintenant.
Oui, voilà, on les prend sur contrat et puis ils travaillent avec nous sur des projets précis. Oui.
Et les scolaires, vous en recevez, vous allez vers eux, vous assurez un peu la transmission?
Alors, c'est un souci que j'ai toujours eu dès que je me suis installée ici. Pourquoi ? Parce que d'abord, notre profession est méconnue. Ensuite, parce que nous sommes le seul laboratoire, avec celui de la ville, bien sûr, mais nous sommes deux laboratoires de restauration pour toute la région Occitanie, en gros.
Vous avez des liens avec celui de la ville, fort ou...
Oui, on a des liens.
Un partenariat
Oui, bien sûr, nous pouvons tout à fait intervenir avec eux. On se prête certains équipements, certains espaces, on vient en renfort et... Oui, je connais la directrice, Sophie Reynard, depuis de longues années. Et nous nous entendons évidemment très très bien. Oui.
Quel regard vous portez sur les politiques et la culture ?
Alors, je suis partie travailler, je suis restée aux Émirats Arabes Unis juste après la guerre du Golfe. Je pense que l'archéologie notamment... sert l'histoire et la politique à certains moments.
C'est-à-dire oui, il y en a d'autres qui ne l'aiment pas, puisqu'on a vu certains, on va les appeler comme ils sont, c'est-à-dire des théoristes qui ont détruit tout le passé.
Là, c'est absolument dramatique. Enfin, c'est un saignement du cœur hein, pour ceux qui aiment, bien sûr, le patrimoine en général, mais toutes ces régions qui sont quand même un peu le berceau de nos civilisations, même lointaines. C'est juste monstrueux. Mais les politiques se tournent vers l'archéologie quand il y a besoin de revendiquer des territoires, tout d'un coup.
Vous croyez que M. Poutine fait de l'archéologie en Ukraine ?
Je ne suis pas certaine qu'il ait cette préoccupation-là, étant donné sa propre formation, hélas. Je dirais que, pour avoir vu et vécu un tout petit peu en Angleterre, il est regrettable que dans la culture générale, l'archéologie, l'histoire de l'art, ne soit pas plus présente. On nous apprend l'histoire, bien sûr, à travers des événements, des archives. Mais ce que l'on découvre en archéologie, ce sont des archives du sol et qui viennent renforcer, en fait, les documents que nous pouvons avoir ou les informations que nous pouvons avoir sur les événements de l'histoire de l'humanité en règle générale.
Aujourd'hui, l'éducation nationale ne s'intéresse pas tellement à ça. Elle forme des consommateurs et des producteurs. Le reste l'intéresse peu.
Voilà, et même on nous dépossède des mathématiques. Comme ça nous évitera d'avoir à trop comprendre peut-être certaines choses.
Nous n'aurons pas la médaille Field, de toute façon, nous le savons, puisqu'on n'est plus capable de faire ni des additions ni des soustractions. Et la politique est quand même la grande absente de cette campagne électorale. On va élire un président, mais la culture, personne n'en parle, aucun des candidats ne s'intéresse à ça.
Non, la culture est devenue quelque chose d'événementiel. Depuis quelques années, la culture se tourne, justement, je pense ce que devient le musée du Petit Palais, par exemple, hein, qui est un lieu d'événement maintenant, où on fait venir, y compris des trampolines pour distraire un peu le public, juste à proximité des œuvres. Non, il y a vraiment une formation de l'esprit qui serait nécessaire. Intégrer la culture, intégrer notre patrimoine, c'est ce qui nous porte aussi, hein, comme le reste, mais c'est ce qui permet aussi de souder et de faire comprendre à des sociétés qu'on fait partie d'un grand tout, comme disaient certains. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde nous relie. Je pense à cet ouvrage de l'historien israélien Sapiens qui a fait débat il y a quelques années, que l'on peut bien sûr remettre en cause à plein de niveaux. Mais malgré tout, il a eu le mérite justement de nous offrir une histoire de l'humanité en montrant tous ces mouvements qui existent à travers le monde des différentes sociétés. C'est quand on est justement sur les sites archéologiques et on découvre, c'est tellement émouvant de découvrir certaines choses et de penser que ça a été fait il y a 2000, 3000, 4000, 10000, 15000 ans. C'est fabuleux.
Le fait de travailler sur le passé, est-ce que ça vous donne un autre regard sur ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, c'est un regard un peu, alors déjà un regard attristé, parce que quand on voit effectivement ce que vous disiez par rapport à la politique culturelle, c'est triste de ne pas faire référence aux beaux-arts, c'est triste d'enfermer les œuvres uniquement dans des vitrines et de ne pas comprendre qu'elles puissent être mises à disposition de tout le monde, de divulguer un peu cette culture. C'est... Oui, la guerre existe malheureusement depuis fort longtemps. Hein. Jean Guilaine, qui est professeur ici... nous a livré un ouvrage formidable, hein, sur la guerre déjà à l'époque néolithique. Hein. Donc, malheureusement, cette conquête du territoire est un peu ancrée dans l'histoire de l'humanité. Mais je dirais que c'est aussi une culture. On l'encourage, hein, ce qui se passe aujourd'hui. On encourage les gens à s'affronter. Je trouve, dans tous ces débats, même à l'heure actuelle, dans ce conflit qui est chez nous, hein, si je puis dire, la présence des marchands d'armes, dont on parle jamais, il y a eu quelques films fabuleux sur les marchands d'armes.
Ben nous sommes, la France, nous sommes des marchands d'armes. Nous vendons des avions, nous vendons qui vont bombarder les petits yéménites, il en meurt une centaine par jour. On pourrait étaler l'Arabie Saoudite, qui est un de nos bons clients aussi, etc. L'Égypte. Toute chose que l'on ne dit pas assez souvent, qu'on ne veut pas voir, de toute façon, dans la mesure où on se dit que ça ramène du travail pour les Français. Et donc des devises, tout va bien.
Alors, j'ai malheureusement constaté que le manque d'intérêt des politiques pour la culture est quelque chose d'assez universel à travers mes voyages.
Oui, c'était une question que j'allais vous poser, mais vous me devancez. Oui. Donc pour vous, les Français ne sont pas, c'est pas un cas atypique, non, on voit ça un peu partout.
Malheureusement, non. Moi, je suis très fréquemment, évidemment... en lien avec tous mes collègues de York notamment, puisque j'ai travaillé en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour les régions, les pays très limitrophes, c'est général. L'autre jour, je discutais avec un collègue du Danemark, du Grand Musée National du Danemark, qui m'expliquait en fait que voilà, leur crédit baissait comme peau de chagrin. Donc c'est vraiment une volonté, des volontés politiques de partout. Les crédits de la culture sont dérisoires. Quant au crédit de l'archéologie ou de la restauration, n'en parlons pas. On vivote quand même. Hein.
Pourtant, on entretient des fonctionnaires à la DRAC, enfin le DRAC, toutes les DRAC, et en plan national, qui seraient censés travailler là-dessus. Enfin, j'imagine qu'ils travaillent là-dessus, d'ailleurs.
Les collègues de la DRAC travaillent énormément. Ils font un travail de terrain absolument formidable avec les moyens dont ils disposent, parce que toutes les DRAC ne sont pas dotées de la même façon. Hein. Il faut le souligner, l'Occitanie est une région gigantesque. Hein. Donc la DRAC Occitanie se répartit sur les sites de Montpellier et Toulouse, ex-Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au fond. Mais ils sont trop peu nombreux pour la quantité de travail et de dossiers à instruire. Hein. Donc, c'est en centrale, je dirais, que les choses vont mal.
Les biens culturels qui sont détenus en France sont souvent d'origine, et notamment avec les d'archéologie, d'origine d'autres pays qui en revendiquent aujourd'hui la propriété. Qu'est-ce que vous pensez des restitutions qu'on pourrait opérer ? Certaines ont été opérées, on l'a vu récemment sur l'art africain.
Oui.
Est-ce que les Grecs réclament aux Anglais ce qui leur appartient, hein, tout ce qui touche au Parthénon, les Anglais sont repartis avec. Qu'est-ce que vous pensez de ces demandes? Est-ce qu'il faut les satisfaire ou est-ce qu'on leur dit, bien non, on vous a pillé, mais on le garde chez nous?
Alors, quand on reprend justement l'histoire d'Agatha Christie, à travers elle, hein, de toutes ces grandes fouilles, notamment dans ces pays d'Orient au 19e, bon, on s'aperçoit qu'à l'époque, le patrimoine n'intéressait pas vraiment les populations locales. L'archéologie n'était pas du tout développée. C'est vraiment une discipline qui s'est développée chez nous.
Peut-être aussi que ces populations locales n'avaient pas atteint le niveau qu'elles ont aujourd'hui.
Et... voilà. J'ai vu la transformation en Égypte, par exemple, où il y a à peu près une dizaine d'années, avec
il y a un directeur des Antiquités,
ministre,
un peu, oui, ouais,
le directeur
ministre,
de Zahoui Awas, voilà, qui était directeur et qui est passé ministre, a lui mis le chapeau d'Indiana Jones, d'ailleurs.
Oui, on le voit souvent à la télévision, voilà. Il surjoue un peu. Mais...
il surjoue un peu, et donc il a souhaité, évidemment, former beaucoup d'Égyptiens, que beaucoup d'Égyptiens soient formés. Et je dirais que déjà, à l'époque de Nicolas Grimal, à l'Institut français d'archéologie orientale, il y avait cette volonté aussi de, sans déposséder pour autant la recherche française, qui était implantée depuis longtemps et qui a fait un travail quand même formidable, mais il y avait cette volonté aussi d'intégrer des Égyptiens et de former les collègues égyptiens. Donc,
ça c'est bien, mais est-ce qu'on est prêt à leur restituer ce qui leur appartient?
Alors là-dessus,
Napoléon n'est pas revenu les mains vides, et d'autres aussi.
Je crois que légalement, les œuvres d'art sont inaliénables. Hein,
oui, elles sont inaliénables.
Voilà,
oui.
Donc la question de la restitution est une question évidemment politique. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu beaucoup de ministres de la culture s'épancher sur cette question.
Aucun.
Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est encore un niveau au-dessus, c'est éminemment politique.
Alors c'est vrai que c'est juridiquement inaliénable, mais est-ce que moralement, ça, c'est une position qui est tenable? Parce qu'on a dit que c'était inaliénable parce qu'on l'a inscrit dans la loi, mais ça c'est tout à fait unilatéral.
Oui,
est-ce que vous comprenez que ces populations aujourd'hui qui ont eu accès à leur passé, qui commencent à le mesurer ou qui l'ont mesuré depuis longtemps, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient quelques droits à revoir ce qui leur appartient?
C'est une question compliquée, voilà, parce que on pourrait penser aussi que les pays qui ont participé à ces fouilles et à la découverte de ce patrimoine ont investi aussi énormément, hein, d'une façon ou d'une autre, dans ces recherches, et donc pourraient être tout à fait détenteurs, en tout cas partiellement, hein, de ces collections, de ce patrimoine, pour l'exposer. On peut penser aussi, c'est un argument qui est souvent avancé, que beaucoup des pays revendicateurs n'ont pas les moyens d'exposer.
On l'a souvent dit, mais bon, voilà. C'est pas très crédible quand même. Hein.
Après, pour les arts africains, je me souviens avoir visité le musée de la Vieille Charité à Toulouse quand il s'est réouvert, dans les années 90, je crois. Et à l'époque, on l'avait visité avec la formation de la Sorbonne en restauration des biens culturels. Et nous avions des collègues avec nous du Bénin, qui sont entrés dans les salles d'art africain du musée de la Vieille Charité. Et ces salles exposaient des masques qui étaient magnifiques, dans une pénombre, et avec des bornes interactives sur lesquelles on voyait défiler des petits films présentant en fait ces masques dans le quotidien des pays d'origine, au cours de danses, rituels, etc. Et quand les collègues du Bénin sont entrés dans cette salle, ils ont éclaté de rire. Ils se sont dit, mais pourquoi vous les figez dans le noir comme ça? Ça n'a rien à voir avec ce que c'est. Ce sont des masques funéraires qui sont employés, que l'on chausse, hein, que l'on met sur la tête simplement pour représenter les morts et en hommage à nos morts dans des grandes festivités. Avec,
ça veut dire qu'on n'avait pas compris l'essence de ces œuvres.
Donc effectivement, là, on se dit quel est le sens, hein, de présenter ça, y compris dans un grand musée parisien, au musée du Quai Branly. Quel est le sens dans ce musée pour un grand nombre de ces vestiges?
Alors au Bénin, on en a rendu quelques-uns, pas trop, mais ils ont un très beau musée là-bas, qui est dirigé par une conservatrice dont le père est connu. Hein. Je pense qu'ils ont été quand même très très heureux de récupérer ces œuvres et de pouvoir exposer à la population et peut-être de faire de la pédagogie autour de ces œuvres.
De la pédagogie, voilà, parce que autant, bon, si on prend le musée effectivement d'Athènes, le grand musée d'Athènes, ou maintenant le grand musée égyptien qui est près du Caire, il y a vraiment une exposition qui est mise à la disposition des sociétés et des pays de leur propre histoire. Donc on peut considérer que les garder tous ces vestiges dans nos musées consiste en une spoliation de la représentation de l'histoire.
On peut le penser, oui, on peut le penser. Pour revenir à la restauration, est-ce qu'il y a des limites à la restauration? Ça commence où? La restauration, ça finit où? Est-ce que c'est juste maintenir en l'état, dans l'état où on l'a trouvé, donc peut-être un état dégradé, ou est-ce que ça consiste à reconstituer?
Alors, prenons par exemple le cas des objets archéologiques, hein, on les découvre en cours de fouille. La première étape et la première mission du restaurateur, c'est de pouvoir effectivement préserver les matériaux tels qu'ils sont découverts. On va empêcher toute action qui va pouvoir modifier la matière, empêcher des analyses ultérieures, par exemple. Et puis, on n'a qu'une vision à l'œil nu avec les outils que l'on a. Dès qu'on met les objets sous une loupe binoculaire, avec un grossissement de 10 à 60 fois, par exemple, là, on voit les choses très différemment. On peut repérer des éléments qu'on n'a pas vus en cours de fouille, par exemple, ou des matériaux qui vont être primordiaux pour l'étude. Donc la première mission, c'est la préservation des vestiges et des matériaux. La deuxième mission, ça va être de mettre en place des interventions pour documenter les objets, pour livrer les informations qu'ils renferment, à la fois sur les matériaux qui les constituent. Voilà, est-ce que c'est vraiment quel type de métal c'est, ou est-ce que c'est de l'os, est-ce que c'est de l'ivoire, etc. Et puis ensuite, pour donner les informations, est-ce qu'il y a des pigments, par exemple, est-ce qu'il y a différents matériaux qui constituent cet objet? Si on prend le cas d'un couteau, est-ce qu'il y avait un manche? Est-ce que ce manche pouvait être en bois, en ivoire, ou en rien du tout, en cuivre? Est-ce qu'il y avait des décors, etc. Et c'est là où on va faire entrer un processus, hein, où on va faire appel à des méthodes d'examen, comme la radiographie, ou la lampe, l'éclairage sous UV ou infrarouge, ou des analyses scientifiques, hein, on va prélever pour faire des analyses des matériaux. Donc là, on rentre vraiment, c'est de la documentation, c'est de l'étude. Et pour ça, on va travailler avec les archéologues qui ont découvert les objets, ou les conservateurs de musées qui ont ces collections depuis fort longtemps dans leur musée ou pas, depuis récemment. Et on va travailler avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on va chercher. Donc, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si on avait une période de prédilection. Non, nous, on est vraiment spécialisés sur les matériaux. Par contre, on se doit, bien sûr, de se renseigner sur la période concernée et plus encore sur le contexte. Par exemple, prenons le cas fouille à Flaujac, dans le Lot, grande nécropole, des grands tumuli qui ont été découverts. Et dans ces tumuli, dans les tombes...
Quelle époque fait,
6e, 5e, jusqu'au 3e, parce que c'est des nécropoles qui se sont étendues sur plusieurs siècles. Et là, on trouve des épées repliées. Quand on travaille sur ces épées, on se rend compte qu'à leur surface, elles ont dû même être chauffées. Donc en discutant avec l'archéologue, on s'aperçoit effectivement qu'elles étaient repliées dans un geste symbolique pour enterrer le mort, et qu'elles chauffaient parce qu'elles étaient proches du bûcher funéraire, vu que c'était des sépultures à incinération. Voilà. Donc ça, ce sont des informations qui sont très importantes. Dans les années 60, on trouvait une épée repliée, on la dépliait. Donc on enlevait une information. Et puis en plus, techniquement, rechauffer du métal, vous voyez, on enlevait beaucoup de surface, et donc on perdait les informations de surface. Là, on va jusqu'à retrouver des épées dans leurs fourreaux, les décors des fourreaux. Et les décors des fourreaux sont des éléments datants. Pour tous les spécialistes de l'étude des épées de cette période-là, ils peuvent dater à un demi-siècle près en fonction du décor qui est représenté sur le fourreau. Donc ensuite, après, on va intervenir sur ce qu'on comprend plus communément comme la restauration, c'est-à-dire la restitution. Un vase est cassé, on va le recoller. Voilà. Et puis s'il y a des trous, nous, qu'on indique comme des lacunes, eh ben, on va reboucher ces lacunes.
Est-ce que ça va se voir ou est-ce que c'est destiné à ne pas se voir? Vous savez, les Japonais, ils ont une technique dont le nom ne me revient pas à l'instant présent, qui consiste à mettre des fils d'or un peu sur les vases, et on voit très très bien la cassure, elle est soulignée même, oui. Elle est magnifiée.
Oui, j'ai restauré un vase japonais il n'y a pas très longtemps, mais le propriétaire privé ne souhaitait pas justement cette technique, qui est admirable. Il y a depuis 15-20 ans à peu près, il n'y a pas des normes parce que ce n'est pas normé, mais il y a des directives de la Direction des musées de France qui a été mise en place avec plusieurs restaurateurs à l'époque, qui consiste à faire une distinction entre la partie d'origine et la partie ajoutée. Donc on va faire en sorte de ne pas reconstituer les décors, par exemple. On va prendre du plâtre blanc qu'on va légèrement teinter. On va pigmenter un peu à la mode impressionniste pour donner toutes les couleurs du vase et que le trou n'apparaisse pas, la lacune n'apparaisse pas, et que le visiteur puisse comprendre d'emblée la forme et ne pas être gêné ni par un trou ni par du plâtre blanc. Voilà. Pour les autres métaux, c'est pareil, hein, pour les métaux, les verres, etc. On va faire une distinction. Donc, c'est l'inverse de ce qui se faisait au 19e siècle, notamment sur les céramiques grecques. Hein, où là,
ça veut dire qu'on est devenu plus respectueux et de l'œuvre et du public et que, voilà, on ne transforme pas en Disneyland.
Absolument, on ne transforme pas en Disneyland. Et on met aussi à la disposition des chercheurs les pièces originales. On les révèle.
Alors, quand vous ne fouillez pas le passé, quand vous ne regardez pas c'est ce qui a émergé de la Terre. Comment vous remplissez vos journées? Vous avez beaucoup d'activités sociales, j'ai vu. Vous faites beaucoup de sport aussi.
Oui, j'aime bien le sport. Notre métier est très statique, hein, intellectuel, certes. On se balade dans l'histoire, mais c'est très statique. Et ça nous prend beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut rester sous la loupe binoculaire pendant plusieurs heures. Et plus on plonge dessous, plus on est fasciné par... l'artiste ou l'artisan qui a réalisé l'objet, et on se perd en rêverie, on se perd. Donc après, il faut, quand on sort, oui, je fais un peu du sport, des balades, du jardinage, les lectures, voilà, j'ai des goûts très éclectiques, et la musique aussi qui remplit cette fois-ci l'espace, voilà, là, j'aime beaucoup. Oui.
Alors l'œuvre d'art qui vous a le plus marqué, parce que vous envoyez tout le temps des œuvres d'art, alors c'est certainement une question très complexe à laquelle je vous ai demandé de répondre, mais vous avez quand même fait un choix.
J'ai fait un choix, c'est le fan à l'oiseau. C'est une... Alors, est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est ce qu'on appelle un propulseur qui servait à l'époque préhistorique et magdalénienne, c'est-à-dire vers 13, 14, 15 000 ans, hein. C'est la période de Lascaux, en gros, ou de Niaud. Qui servait donc à propulser les sagaies. Donc les sagaies, c'est simplement une pointe, hein, en général en silex, sur une hampe en bois. Et pour augmenter la force de la propulsion, du jet, en fait, les préhistoriques avaient fabriqué ce petit outil qui permettait de démultiplier le geste et donc d'avoir une force supplémentaire pour la propulsion de leurs sagaies. Sauf que ce petit objet, je vous en ai... Bon, les auditeurs ne vont pas le voir, mais je vous en ai ramené donc une petite illustration. Cet objet a été découvert en 1940 par un couple, les Pécard, qui étaient des préhistoriens bretons, mais qui travaillaient avec les préhistoriens du Mas d'Azil, notamment, et de l'Ariège. Ils étaient peu à l'époque, hein, donc il y avait quand même une grande émulation scientifique en France. Et c'est en fouillant au Mas d'Azil qu'ils ont découvert ce propulseur. Donc, en fait... C'est un outil qui est fabriqué dans du bois de cervidée. Et cet outil utilise évidemment les formes du bois de cervidée, comme c'est souvent le cas en préhistoire, y compris dans les grottes, les surfaces des grottes, qui utilisent les reliefs pour dessiner un bison, par exemple, matérialiser un bison. Donc cet outil représente un petit faon qui tourne la tête vers sa queue. Et sur son arrière-train, on voit ou on pense voir deux petits oiseaux qui picore le derrière. Donc, là, je me réfère à Jean-Claude, éminent préhistorien de l'Ariège, notre maître à penser, qui a été d'ailleurs...
Mais réfugié dans le Lot.
Mais réfugié dans le Lot, mais qui a été un des présidents de l'association du laboratoire, dans les années 90, d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est vraiment un simple outil, ou est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce qu'il a servi? Donc, il y a un décor absolument incroyable. Quand on met l'objet sous la loupe binoculaire, on se rend compte du raffinement. Voilà, c'est juste extraordinaire, ce petit faon. Et il n'est pas tout seul, parce que dans les années 50, il y en a un autre qui a été découvert dans la grotte de Bédéiac. Et puis, il y en a un autre qui a été découvert en Wallonie, je crois. Donc, ce motif du faon... C'est quelque chose qui était réputé à l'époque magdalénienne. C'était peut-être la mode dans tous les magdaléniens qui pouvaient se croiser. Mais c'était surtout l'expression extraordinaire de la nature environnante, avec une capacité d'observation et de restitution de cette observation.
Donc un objet totalement émouvant.
C'est un objet émouvant. Voilà. Il Il est parti en exposition, bien sûr, au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il est reparti en exposition au Mas d'Azil il y a quelques années et j'ai eu la chance de pouvoir retravailler sur cet objet que j'avais déjà vu à l'occasion de cette exposition qui était sur l'art préhistorique et la préhistoire de l'art, d'ailleurs, avec une collègue, Carole Fritz, du CNRS, qui travaille justement sur les traces d'outils. Ils ont tenté de faire des datations, mais cet objet a été trop manipulé. L'ADN est pollué, je dirais. Il n'y a pas plus suffisamment de matière. Mais enfin, c'est quand même un objet qui date, qui nous sépare du temps. Voilà, il a été fabriqué il y a 15 ou 16 000 ans. C'est cette compression du temps que je trouve vraiment saisissante. Quand je vais travailler dans la grotte de Niaud, j'y vais souvent depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois que j'arrive dans le salon noir, je suis submergée par cette émotion parce qu'on a l'impression d'avoir à côté de nous les préhistoriques qui sont venus dessiner ces peintures il y a quand même 16 000 ans. C'est extraordinaire. Sinon, effectivement, des objets magnifiques, j'ai eu l'occasion d'en voir énormément.
Un moment particulier qui vous a marqué, je crois que vous l'avez un peu révélé tout à l'heure, mais c'est cette guerre irako-ouette qui a fait que votre carrière a été un peu modifiée.
Bon, d'abord parce que tout conflit est saisissant, ça c'est évident, c'est jamais une bonne nouvelle, bien sûr, pour tout le monde. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais partie, j'avais le visa pour partir en Irak, qui était déjà compliqué à avoir, et je partais pour 2 ans dans ce berceau de la civilisation qui m'avait fait rêver tout au long de mes études d'archéologie et d'histoire de l'art. Et j'étais évidemment ravie de pouvoir partir et voir tous ces objets qui avaient été mis au jour par les prédécesseurs, tous les archéologues depuis le 19e siècle sur ces civilisations, et travailler au musée de Bagdad avec des Irakiens. Et bon, le jour, je travaillais dans un laboratoire à Paris quand le conflit a été déclaré, donc je l'ai suivi de très près. Et puis pendant 15 jours, j'ai espéré pouvoir partir. Donc après, c'est le directeur du laboratoire Valectra, donc Jacques Montluçon, qui m'a trouvé cette mission en Égypte. Et puis finalement, j'ai découvert l'Égypte.
Voilà. Mais ce qui fait que vous n'êtes jamais allé en Irak.
Je ne suis jamais allé en Irak, non.
Vous aimeriez y aller?
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a quand même des sites extraordinaires.
Ils sont conservés aujourd'hui, ces sites, ou ils sont un peu laissés à l'abandon?
Alors, quand je devais partir, la première mission que j'avais était d'aller avec une collègue et amie archéologue du CNRS qui, elle, travaillait à Mossoul et qui a eu la chance de pouvoir malgré tout y retourner. Les Irakiens ont accepté qu'elle vienne pour vérifier un peu l'état des sites. Et non, ça a été très détruit, hein, très, très détruit. Vous citiez tout à l'heure tous ces grands sites magnifiques qui ont été quand même pulvérisés. Quand on voit les images... C'est juste
notre civilisation s'est donc appauvrie.
Ah, là, on a perdu beaucoup. Oui, on a perdu,
on a
beaucoup
perdu
du
notre passé.
On perd notre passé, on perd le lien avec le passé. C'est ça qui est regrettable. Et c'est pour ça que toute action envers la jeunesse, si je puis dire, l'accueil des stagiaires et des étudiants, ces journées du patrimoine sont vraiment primordiales. Oui.
C'est votre mère, finalement, qui a été la grand personnage de votre vie. C'est elle qui vous a mis sur les rails? Vous la citiez en début d'émission.
Oui, parce que c'est elle qui a découvert, qui a lu cet article dans un journal, je ne sais plus lequel, mais enfin, qui a lu cet article donc, écrit par Madeleine Ours sur la préservation du patrimoine et le laboratoire du Louvre. Et c'est là où j'ai compris que ça pouvait être une voie qui était très intéressante. Après, j'ai mis beaucoup de temps à savoir quelle formation existait. Et c'est en me rendant à l'ONICEP, à l'époque c'était sous la Tour Eiffel.
L'ONICEP, oui, qui doit toujours exister d'ailleurs.
Qui doit toujours exister, qui n'était pas très loin de la Tour Eiffel. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une interlocutrice qui m'a très très bien reçue et qui a passé beaucoup de temps à chercher toutes les informations et qui a trouvé cette formation unique qui existait à l'époque à la Sorbonne sur la restauration du patrimoine. Et à l'époque, c'était une formation qui venait simplement d'ouvrir. Hein. C'était vraiment quelque chose de très novateur. Donc j'ai postulé. Et la première année, on m'a dit non, on ne prend que 20 personnes par an, donc vous faites autre chose de votre vie, vous continuez, vous... Voilà.
C'est sympathique.
Donc j'ai persisté et c'est comme ça que j'en suis venue à faire une maîtrise en histoire de l'art et archéologie, que j'ai pu quand même partir sur des fouilles en attendant, jusqu'au jour où pour la troisième fois j'ai repassé l'entretien et là j'ai dit non, là ça suffit, soit vous me prenez, soit je vais dans une école concurrente et j'ai dû être assez persuasive pour qu'il me rappelle et que finalement ils acceptent de me prendre. Et on a été une promotion fabuleuse. 20 étudiants, qui se sont... Alors on s'est suivis pendant les 4 ans de formation. On a monté ensemble des choses formidables. Oui, c'était très, très stimulant. C'est une très belle formation.
Monique, nous arrivons à la dernière séquence de cette émission, séquence littéraire. Vous avez fait le choix d'un livre dont vous voulez nous parler. Bon, c'est un choix que je bénis parce que je l'ai aussi adoré. Parlez-nous donc de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, un grand arpenteur du monde aussi.
Oui, voilà. La Panthère des Neiges, je l'ai découverte en livre audio que mes enfants m'ont offert pendant le confinement, donc l'année dernière. Et Sylvain Tesson n'était pas un écrivain sur lequel je m'étais beaucoup penchée. J'avais lu 2 ans auparavant son ouvrage, son livre magnifique, S'abandonner à vivre, donc qui était vraiment, qui m'a beaucoup touchée, une écriture qui me plaît énormément. Et puis après, évidemment, La Panthère des Neiges, quand je l'ai écouté pendant le confinement, en plus, c'était une évasion extraordinaire.
Vous préférez écouter ou lire ?
Là, j'avais besoin d'écouter. Voilà, j'avais besoin d'écouter parce que pendant le confinement, je me suis lancée dans une validation d'acquis d'expérience pour avoir un dernier diplôme que j'ai obtenu donc en janvier.
Nous vous en félicitons. Qu'est-ce que c'est que ce diplôme, d'ailleurs ?
C'est le diplôme d'expertise en conservation préventive, à la Sorbonne aussi. Mais c'était beaucoup plus lourd que ce que je n'avais imaginé et j'avais vraiment besoin de me reposer et l'esprit et les yeux.
Je vois qu'on conserve préventivement rue de Metz. Là, je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des travaux. Donc même dans Toulouse, on fait de la conservation préventive,
oui,
c'est
oui,
bien.
Oui, oui.
Donc, La Panthère des Neiges, Sylvain Tesson, oui. Vous le recommandez à tout le monde ?
Alors, je le recommande. J'ai vu le film aussi, bien sûr, qui est sorti en décembre dernier. Et Sylvain Tesson est un écrivain, mais c'est avant tout un géographe. Il a fait aussi des études en géopolitique. Sa démarche me touche énormément parce que c'est une démarche, il ne se décrit pas du tout comme un artiste. C'est quelqu'un qui va observer. Et
C'est pas facile d'observer, il faut savoir observer, il faut savoir comprendre ce qu'on voit aussi. Et voilà, avoir peut-être un zeste d'humilité pour le décrire.
Exactement, et je trouve que ça correspond assez bien aussi à ma démarche en restauration. Il nous faut beaucoup d'humilité, il faut faire abstraction de notre personne complètement, avoir beaucoup d'empathie pour les matières et les objets. Donc Sylvain Tesson, évidemment, il a une écriture qui est extraordinaire pour moi, avec beaucoup d'humour, sans complaisance, surtout vis-à-vis de lui. Et ce qui m'intéressait dans cette démarche aussi, c'est là aussi une démarche pluridisciplinaire, parce qu'il est parti avec Vincent Munier, qui est donc photographe, accompagné de Marie Miguet, qui est cinéaste. Et il y avait un jeune Léo, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui lui est ethnologue. Donc en fait, ils sont partis à 4 autour du même sujet.
Des spécialités différentes.
Avec des spécialités différentes, et ça c'est extraordinaire. Et le film montre bien cette multitude de regards. Ce sont les regards croisés qui sont intéressants. Autour d'un même sujet, qui va voir quoi et comment on arrive à collaborer.
Alors on rappelle La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson en livre audio, mais aussi en lecture. Je suis plus proche de la lecture que du livre audio, mais peu importe, l'essentiel c'est de le lire et c'est vrai que c'est un excellent, excellent ouvrage. Alors moi je vais vous parler d'un autre livre. Est-ce que vous connaissez Clémentine Mélois ?
Non.
Non, eh bien il faut la connaître. Ça s'appelle Dehors la tempête, c'est sorti chez Grasset puis chez Point. Alors c'est une suite d'essais littéraires et par des allers-retours entre la vie des personnages qu'elle a découvert dans ses livres et la sienne, Clémentine Mélois, eh bien, nous fait pénétrer un peu dans cette expérience de lecture qui est à la fois très personnelle mais aussi universelle et les souvenirs et les sensations des fictions deviennent un peu les nôtres. C'est vrai que ce qu'elle a lu, c'est une jeune femme, je pense qu'elle a une 40aine d'années, mais elle a une lecture de choses très classiques, j'ai à peu près lu les mêmes, et c'est vrai que son regard m'a tout à fait passionné. Voilà, c'est tendre, c'est plein d'humour, il y a beaucoup de charme, beaucoup de culture, et puis de retour à notre enfance, alors c'est un vrai bonheur de lecture. Clémentine Mélois, Dehors la tempête. Et puis, on a beaucoup parlé de culture, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça s'appelle SOS Culture, ça a été écrit par Serge Regour, bon, qui est venu plusieurs fois à cette antenne. C'est un livre absolument passionnant. Si vous voulez savoir ce qu'est la culture aujourd'hui, ce que les politiques, la façon dont ils la traitent aujourd'hui, bien lisez SOS Culture de Serge Regour, qui est un universitaire toulousain, qui est également élu à la région, puisqu'il est aussi président de la commission culture. C'est aux excellentes éditions Indigènes. Lisez SOS Culture, vous allez peut-être, si vous n'avez jamais lu, vous allez peut-être un peu tomber de votre chaise parce que Serge Regour ne retient pas son verbe, et il ne l'a jamais retenu d'ailleurs, et il a fort raison. Merci Monique Drieux d'être venue nous visiter à Esprit Occitanie. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiffaine Lemaine que je remercie. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver le podcast de cette émission avec toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.
Merci Jacques Lavergne.
Avec grand plaisir, à bientôt.